Je ne vais pas vous représenter Aline Gossens qui a déjà intervenu il y a 15 jours. Je vous rappellerai juste qu'elle est docteure en histoire de l'ULB et qu'elle travaille à la communauté française. Elle va ce soir nous parler de l'invention de la sorcellerie et de sa répression.
Merci beaucoup. Bon, effectivement, il y aura un tout petit passage dans cet exposé qui recoupera un petit peu ce dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ça m'embête ce truc. Je vais finir par l'attacher. Et donc, forcément, il y aura, je vais limiter au strict minimum éventuellement les redites pour ceux qui n'auraient pas été là il y a 2 semaines, évidemment. Alors, on va essayer peut-être d'abord de vous réchauffer un petit peu. Il paraît que ça marche. Voilà. Bon, je vais mettre mes lunettes aussi parce que ça, c'est l'âge venant. Ça s'impose tout à fait. Alors, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Moi, je vois encore. Donc, ça va. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène qui est un petit peu connexe à celui de l'hérésie, de par, non pas forcément sa définition, mais surtout de par la manière dont le phénomène a été envisagé depuis, je dirais, le Moyen-Âge jusqu'au... à la seconde moitié, grosso modo, du XVIIe siècle en France, principalement. Alors, première question peut-être liminaire à tout cet exposé, c'est de se demander ce qu'est une sorcière en tant que telle. Comment est-ce que ça se définit? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Comment apparaît-elle? Comment devient-on sorcière? Enfin bref, toute cette imagerie-là. Alors j'ai été rechercher 2 textes du milieu du XVIe siècle qui sont très intéressants dans la mesure où ce sont d'abord des personnages très connus dont on n'a pas l'habitude de lire ce genre de littérature sur leurs plumes, puisque d'un côté c'est quand même Pierre de Ronsard et de l'autre côté Joachim du Bellay qui sont, je dirais, 2 humanistes. Et c'est évidemment choisi à dessein ce soir pour vous montrer que si l'on peut être humaniste et avoir une vision, une haute vision de la destinée humaine, on peut aussi avoir des visions beaucoup plus réductrices sur l'image de la femme d'un côté et sur la sorcière de l'autre. Alors, finalement, ce sont 2 extraits, les poèmes sont plus longs. Donc le premier est celui de Pierre Ronsard, donc il parle de la sorcière et il dit ceci. « Puisse-t-elle mourir bientôt, et que ses os diffamés, privés d'honneur de sépulture, soit des corbeaux goulus pâtures et des chiens affamés. Les forces mauvaises de la nature lui obéissent. Au seul soupir de ton haleine, les chiens effrayés par la plaine aiguisent leurs abois. » Alors, évidemment, on a déjà toute une série ici de concepts intéressants qui ressortent du texte. Bon, d'abord, le fait que Pierre de Ronsard ose régir, comme la plupart des personnes de son temps, déteste les sorciers et les sorcières et donc souhaite évidemment leur mort, la plus rapide possible, puisqu'il dit déjà « puisse-t-elle mourir bientôt ?» Alors, autre mot très intéressant, c'est que ces mots sont diffamés. Donc, la femme, F-A-M-E à l'époque, c'est la renommée, donc c'est l'honneur, si vous voulez, de la personne. Donc, il dit que ses os, donc son squelette, une fois qu'elle sera morte, n'ont pas d'honneur et donc ne doivent, sous-entendu, pas être traités de la manière avec laquelle le respect avec lequel on traite normalement le corps d'un mort, donc c'est-à-dire l'enterrer avec, tout le sacré qui l'entoure. Donc privé d'honneur de sépulture, donc on va l'enterrer à même le sol, sans linceul, sans même de tombe, ni de mention de son nom. En plus, si on ne l'enterre pas, on peut aussi la laisser pendu, en fait, c'est ça que signifie la goulue pâture des corbeaux. Donc on va laisser son corps pendre, soit au gibet, soit à une autre manière de la pendre, de l'exposer en tout cas aux animaux de la nature, et donc la laisser manger par des animaux, ce qui garantit évidemment aussi qu'elle ne sera pas sauvée à l'ère du jugement dernier, puisque son corps ne sera pas d'un seul tenant et d'un seul morceau dans une terre consacrée. Donc elle est non seulement maudite, oserais-je dire, sur terre, mais elle est également maudite dans son futur, divin. Alors que fait-elle, dit Ronsard? Eh bien, les forces mauvaises de la nature lui obéissent. Donc ça veut dire qu'on est déjà ici face à une mauvaise sorcière, une méchante sorcière, puisque c'est les forces mauvaises qu'elle utilise et pas les forces bonnes. J'y reviendrai dans quelques instants. il y a un micro. Donc, les forces mauvaises de la nature lui obéissent. Donc, elle utilise ces forces de la nature pour faire du tort aux hommes. Et, disent-ils, au seul soupir de ton haleine, les chiens effrayés par la plaine aboient, en fait. Hein. Donc, même les animaux ressentent, on voyait ça dans les films hein, aujourd'hui, on pensait à Poltergeist et tous ces trucs-là, où on voit que les animaux seraient dotés d'un sens supérieur au nôtre pour détecter la sorcière ou la force mauvaise qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Alors, on va prendre le texte de Joachim du Bellay, donc qui lui aussi est un morceau. Et il dit « Par toi, les vignes sont gelées, par toi, les plaines sont grêlées, par toi, les arbres se démentent, par toi, les laboureurs lamentent leur blé perdu, et par toi, pleurent les bergers leurs troupeaux qui meurent. » Donc, on a ici de nouveau un ajout, si vous voulez, à la description faite par Ronceur, qui est de dire ben, simplement, c'est une personne qui donc commande au climat, donc est capable de faire geler des vignes, de faire grêler sur les récoltes de fruits ou de blé, et donc provoquer la famine, faire donc se démenter, donc s'écrouler, je veux dire s'effondrer les arbres, sous-entendu ici bien entendu les arbres fruitiers. Les blés sont perdus, les animaux meurent. Donc voilà, grosso modo, je vais dire, donc 1550, les deux textes, c'est le hasard un peu ici, fait que ces deux textes sont de la même année. Et donc voilà l'image qu'en ont ces deux humanistes. Alors, je vais dire que l'imagerie populaire, évidemment, n'est pas en reste, puisque vous avez ici trois images assez, je dirais, classiques. Donc vous avez en haut des sorcières à tête d'animaux qui chevauchent leur balai. Hein, ça, c'est l'image, une des images traditionnelles. Vous en avez une autre, c'est un Goya, le deuxième, je vous le signale. Donc on est déjà là, à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est pour vous montrer aussi la persistance de l'image. Donc aussi une vieille femme ici sur son balai. Et en dessous, moi je ne vois pas très bien cette partie, oui, on a aussi une femme ici avec qui, je vais dire, fait du tort dans une famille, une vieille femme voûtée qui intervient aussi dans une famille. Alors on peut dire grosso modo qu'il y a en fait trois images de la sorcière. Il y a trois sortes de sorcières, oserais-je dire, qui sont présentes, je dirais, non seulement dans la littérature, mais aussi dans l'histoire. Alors, vous avez la première vision qui est celle que l'on a encore peut-être un petit peu en tête, qui est ce que j'appellerais la vision romantique. Donc, c'est la sorcière telle que Jules Michelet, en 1862, l'a décrite dans son ouvrage intitulé « La sorcière ». Et donc, la sorcière, c'est quoi? C'est dans ce cas-ci une jeune femme. Donc, c'est l'histoire de la sorcière dans le cas de Michelet. C'est une jeune femme qui a été dévoyée par une plus vieille et qui... parce qu'elle était dans la misère et dans le besoin, avouer son âme au diable et a ainsi essayé, je vais dire, de sortir de sa misérable condition. Donc ça, c'est effectivement la vision romantique créée par un 19e siècle nostalgique par rapport à un Moyen-Âge qu'il connaissait finalement très peu et à l'image, je vais dire, d'un Moyen-Âge aussi qu'il voyait hanté par la lutte entre le bien et le mal, hanté par les bûchers de l'Inquisition, hanté donc par tout ce contexte-là. Et qui s'est, je dirais, promené, perduré jusqu'à nous quasiment, jusqu'au moment où effectivement ben, les historiens se sont un peu mêlés de l'affaire. Et voici, je dirais, une trentaine d'années, on a pu parler de la sorcellerie et de la sorcière au Moyen-Âge et à la période moderne d'une manière plus scientifique et plus ancrée parce que les archives nous révèlent de ce phénomène. Et donc, nous avons effectivement aujourd'hui une deuxième vision, oserais-je dire, qui est la vision des historiens, la vision historique, et qui, elle, va s'ancrer surtout sur le problème, va placer, si vous voulez, le problème de la sorcière et de la sorcellerie plutôt dans un contexte de société en général, et qui va constater que la sorcière est quelque part un peu le bouc émissaire d'une société profondément misogyne, une société médiévale profondément misogyne. J'ai apporté quelques petits textes que je vous lirai tout à l'heure, vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire, mais aussi qui est l'expression d'une, comment je dirais, la femme, si vous voulez, est considérée comme détentrice d'un certain nombre de secrets issus de la nuit des temps, et qui ne sont pas maîtrisés par la gent masculine en général. La sorcière est une manière, en fait, de les stigmatiser et de les mettre à l'écart d'une société. Et donc, c'est tout le problème de la normalisation et de l'intégration dans une société. Donc, la vision historique, je vais dire, jusqu'il y a peu, considérait un peu donc, la sorcière de cette manière-là. Et puis, il y a une troisième image de la sorcière qui, elle, est, je dirais, plus positive, surtout par rapport à celle de Michelet, qui est ben, c'est une femme imprégnée de culture, ce qu'on appelle la culture populaire, donc d'une culture ancestrale, qui mêle à la fois le sentiment religieux, la religiosité, donc pas uniquement le sentiment religieux, mais vraiment la piété personnelle, la religiosité, toute la problématique, je dirais, de savoir comment la religion a imprégné les gens à l'époque médiévale, est-ce qu'ils étaient profondément chrétiens ou est-ce que le christianisme était un vernis, je dirais, non seulement religieux, mais également culturel, qui recouvre un passé beaucoup plus païen ou non. Et donc, vous avez effectivement donc, plusieurs axes d'études possibles quand vous parlez de la sorcellerie en général et de la sorcière en particulier. Pourquoi est-ce que j'utilise surtout sorcière ? Il faut savoir que dans 80% des cas, les personnes qui sont condamnées pour sorcellerie au Moyen-Âge et à la période moderne sont des femmes. Et donc, il y a ici effectivement un point intéressant sur lequel je reviendrai également tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs images, évidemment, de cette sorcière, donc à travers, je vais dire, ces trois points. Bon, la première, je vais les prendre un petit peu chronologiquement pour vous montrer qu'il y a une évolution, évidemment, dans cette image. Ben, c'est d'abord que la sorcière, si vous prenez l'Antiquité gréco-classique, si vous prenez encore une partie du Moyen-Âge, la sorcière, c'est avant tout une diseuse de bonne aventure. Donc, c'est une femme qui a un lien particulier avec l'au-delà, avec des puissances magiques qui ne sont pas forcément chrétiennes, et qui seraient capables, manifestement, de vous apprendre votre futur, de vous lire les cartes, de vous, je ne vais pas dire lire dans le marc de café, parce qu'à l'époque, ce n'est pas possible, mais en tout cas, de lire les lignes de votre main et de vous informer sur votre futur et votre avenir. Ici, c'est une image du XVIIe siècle qui représente, comme vous le voyez, une vieille femme et qui semble être ici une Rome, donc une bohémienne, parce que ce genre de disposition était à l'époque plutôt prêté aux gens du voyage et plus vraiment aux autochtones. Mais il faut savoir que dans les périodes plus anciennes, ce genre de pratique s'effectuait par des personnes résidant dans les villes et dans les villages, et que c'était unanimement, je vais dire, accepté et considéré comme quelque chose de normal. On allait consulter, je vais dire, la diseuse de bonne aventure quand on avait des décisions à prendre. Et ce n'était pas non plus l'apanage du paysan, ça pouvait être aussi l'apanage des rois. Pensez à Nostradamus, par exemple, hein, qui faisait aussi des horoscopes, qui était aussi un éminent astronome, mais qui avait également à côté une activité, oserais-je dire, de diseurs de bonne aventure, de tireurs d'horoscope. Et donc, c'est quelque chose qui était accepté, qui n'était pas stigmatisé comme étant satanique ou comme étant particulièrement négatif. Je dirais, à la limite, on y croyait ou on n'y croyait pas. C'est un petit peu comme aujourd'hui avec nos horoscopes dans le journal. Hein, c'est quelque chose qui peut se discuter, auquel on peut croire ou non. Il y a une deuxième activité, un deuxième bloc, je dirais, d'activité qui est rempli aussi par la sorcière depuis très 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 longtemps. On ne s'est pas d'ailleurs donné d'origine, je dirais, à cela. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. Alors, vous savez qu'il existe magie blanche, magie noire. Ici, dans la magie blanche, c'est une magie qui est bonne, qui est considérée comme apportant un progrès ou une aide aux hommes, et qui donc est également positivement perçue. Et dont l'activité, je vais dire, principale, est de faire ce qu'on appelle les retours d'affection, ou en tout cas de créer des sentiments amoureux à une personne que l'on aime, et de lui faire comprendre effectivement qu'on l'aime. Donc c'est toute la pratique de filtre d'amour, de constitution de filtre d'amour, qui est ici mise en avant. Et donc vous avez ici une représentation de la fin du Moyen-Âge, où, en fait, la sorcière, qui est très jolie et nue, effectivement, ici, dans les phylactères qui sont au-dessus, en fait, est en train de réaliser un filtre d'amour pour l'homme qui arrive par la porte, et l'homme étant manifestement amoureux d'une dame qui ne partage pas ce sentiment avec lui. Alors, cette activité est aussi alliée au mythe, je dirais, de la prêtresse païenne. Donc là aussi, on est en lien avec des choses très anciennes, je vais dire avec toute cette culture gréco-romaine, qui acceptait également tout à fait ce genre de pratique. Donc, à la Renaissance, pendant les périodes de répression de la sorcellerie, ce sont des activités qui vont se poursuivre et qui, elles, je vais dire, vont être ressenties peut-être un peu en marge, mais ne seront pas condamnables en tant que telles. Donc ça, c'est assez intéressant. Troisième activité qui, elle, au départ, est aussi éminemment positive, c'est la guérisseuse. Donc la sorcière est aussi une guérisseuse, c'est une femme qui connaît les plantes, qui connaît les simples, qui sait comment les utiliser, à quel escient, comment les préparer, quand les cueillir, etc. Et donc là, on touche à un savoir, je dirais, médical, qui jusqu'au milieu du Moyen-Âge était quasiment l'apanage des femmes, notamment beaucoup lié à la maternité, donc à ces mystères de la maternité, de l'accouchement, à l'aide qu'elles devaient apporter aux femmes en gésine, comme on disait donc à l'époque, mais aussi aux conditions du labeur des hommes dans les champs et toutes les maladies et toutes les blessures et les coupures qui pouvaient se produire, évidemment, lors de ces activités. Et donc, à ce moment-là, effectivement, la guérisseuse est respectée. C'est une femme qui a, un petit peu l'image emblématique du chaman, on est à la limite du chamanisme parfois ici, mais qui est entièrement intégré dans sa communauté et dont finalement personne ne pourrait se passer. En plus, vous avez la dimension, je dirais, d'initiation en général qui est associée à ces pratiques de guérison, pratiques un peu magiques, qui se transmet souvent de mère en fille. Donc vous avez des dynasties ou des familles de guérisseuses qui sont donc dans ces villes et dans ces villages. Alors j'ai apporté ici des exemples de plantes qui sont largement utilisées ici. Vous en reconnaissez peut-être, moi je ne sais pas lire d'ici, mais j'ai évidemment mis la mandragore qui se trouve, qui se trouve, je pense, juste ici au centre, et qui est donc, elle, est une plante qui suscitait un petit peu, l'intérêt dans la mesure où elle était assez particulière. Donc, le savoir de ces plantes était donc aux mains de ces femmes. Or, l'on sait qu'au milieu du Moyen-Âge se créent des universités, d'abord en Italie, en France, et puis dans nos régions, et c'est une pratique qui se répand rapidement. Et donc apparaissent des médecins, qui avaient disparu, il y en avait durant l'Antiquité, mais pendant le Haut Moyen-Âge, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Il y en avait bien du côté de l'Orient, mais en Occident, il n'y en avait pas. Et donc, vous allez voir apparaître, oserais-je dire, une catégorie de professionnels, de ceux qui se prétendent comme tels en tout cas, à côté de ces guérisseuses. Et donc, vous allez voir apparaître, si vous voulez, une concurrence. La présence des guérisseuses va devenir de moins en moins souhaitable, même si, pour la majorité des gens, la guérisseuse avait plus de connaissances que le médecin, ce qui n'est pas tout à fait faux quand on voit l'enseignement qui était dispensé dans ces universités. Mais, je dirais, vous allez avoir ici aussi un aspect qui va être battu en brèche au fur et à mesure du temps par une caste médicale, d'hommes essentiellement. Alors ici, vous avez des femmes, et donc c'est pour ça, ça c'est aussi intéressant de voir qu'il y a quelque part une guerre des sexes ici qui se dessine. Autre aspect également qu'on associe à la sorcellerie, mais qui est plutôt ici l'apanage des hommes en général, c'est ce qu'on appelle la magie initiatique. Donc là, on touche à l'alchimie, on touche à d'autres pratiques, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Vous avez donc ici le dessin, la représentation d'un cabinet d'alchimistes, où là, c'est une pratique... Autant la guérisseuse, c'est l'initiation entre femmes, ici, autant l'alchimie, c'est plutôt une affaire d'initiation entre hommes. Je vais dire ça pour schématiser globalement. Et donc, les sorcières dont nous allons parler très bientôt, elles ne sont pas vraiment liées à cette magie initiatique. Donc, c'est un sujet, qui est un petit peu connexe, bien entendu, mais qui n'est pas je dirais, aborder ici de la même manière. Et puis, on va voir tout doucement, insensiblement, apparaître d'autres éléments dans la définition de la sorcière et de la sorcellerie. Alors, vous avez évidemment les représentations ici que j'ai été chercher le plus proche possible de la période considérée. Donc, vous avez tout d'un coup donc, un basculement, non seulement idéologique, mais aussi en image. Donc, on passe d'une sorcière qui fait des filtres d'amour, d'une guérisseuse, donc de quelqu'un qui est finalement bien intégré dans sa société, à quelqu'un qui, comme vous le voyez sur la sorcière de Dürer, vole sur son balai. C'est une vieille femme, elle est à moitié nue, elle est échevelée, elle est décharnée, elle n'est pas belle. Elle est entourée de créatures bizarroïdes, sataniques. Et donc, vous avez effectivement ici un basculement. Dans l'autre gravure qui est au-dessus, qui est une gravure protestante de 1579, vous voyez donc une vieille femme, de nouveau, qui est en train de nourrir des espèces de crapauds. Et la gravure dit clairement que ce sont des familiers sataniques. Donc, en fait, elle conserve chez elle des créatures sataniques dans un coffre qu'elle nourrit. Alors, c'est assez... c'est un début. Alors, si vous suivez, on trouve encore d'autres images. Vous trouvez ce qu'on appelle la sorcellerie liée à la liturgie à rebours. Alors, la liturgie à rebours revient, en fait, à prendre la messe et de la faire se dérouler à l'envers, ou de changer en tout cas des éléments dans cette messe qui fait que ce n'est plus du tout une messe chrétienne, mais ça devient une messe satanique. Donc c'est ici ce qui est représenté, c'est que la sorcière, fait un pacte avec Satan et non plus avec Jésus, et parodie la vie de Jésus. Donc vous avez ici des scènes de baptême, où c'est le diable qui baptise et non plus... dans ce cas-ci, Saint Jean-Baptiste, puisque c'était cette image-là que l'on voulait représenter. Vous avez une profanation d'autel, ici en bas à gauche. Vous avez des dragons, de nouveau ce crapaud qui est présent donc en pleine église. Vous avez encore pire, ici en bas à droite, un piétinement de la croix qui est effectué donc par des fidèles sur ordre de Satan. Et donc la sorcellerie, ça devient ça. On est ici au milieu du XVIe siècle et ça devient clairement toutes ces images, toute cette, cette aggravation soudaine et brutale. Alors vous avez encore ici une série, d'autres images assez fortes. Donc vous avez, souvenez-vous du texte de Ronsard qui dit « Elle fait du mal aux hommes, mais elle fait du mal aux animaux ». Et donc, vous avez, par exemple, ici en bas, c'est d'ailleurs une gravure de Dürer encore, vous avez un cochon qui est représenté comme étant un double cochon, donc une naissance qu'on dirait aujourd'hui anormale, et vous savez qu'il s'en produit de manière naturelle, évidemment, chez les animaux comme chez les hommes. Et donc, ici, ce genre de naissance était au fils attribué à la sorcière, qui voulait porter tort au propriétaire de l'animal. Et donc, voilà, son pouvoir est capable, donc, de manipuler les animaux. Alors, vous avez une image beaucoup plus traditionnelle ici en bas, où vous avez la sorcière qui s'échappe par la cheminée. Donc, elle est venue dans la maison, elle a jeté un sort sur la maison, et elle s'échappe par la cheminée sur son balai. D'ailleurs, l'image est assez amusante dans la mesure où vous avez encore une partie de la sorcière qui est à l'intérieur dans la cheminée, si vous regardez bien, et vous avez en fait toute la sorcière à l'extérieur. Donc, je veux dire, le dessin est vraiment fait volontairement. Il est un peu grotesque, il fait sourire, mais pour l'époque, ça ne faisait pas du tout, évidemment, sourire. Et donc, les pratiques magiques qui sont faites dans la maison ici sont observées par un témoin extérieur qui regarde par le petit trou de la serrure ce qui se passe et qui, bien entendu, on peut compter, va aller répercuter ça tout de suite au curé du coin pour lui raconter ce qu'il a vu. Alors, au-dessus, vous avez de nouveau une représentation... d'une sorcière, qui est de nouveau une vieille femme décharnée, très laide, et à ses côtés, en face d'elle, on a mis un squelette. Alors, ce n'est pas, c'est vraiment pour clairement exprimer qu'elle a le pouvoir de vie et de mort. Donc, elle est capable de tuer les gens, elle est capable de jeter des sorts de telle manière qu'elle vous tue. On n'est pas ici dans un contexte de criminalité habituelle, on est ici dans le magique. hein, dans le sort complet. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre les premières images que je vous ai montrées du Moyen-Âge, où finalement ces femmes, ces guérisseuses, ces sorcières vivaient, je vais dire, plus ou moins paisiblement leur vie, et puis qu'à un moment donné, il y ait cette débauche d'agressivité à leur égard. Eh bien, il s'est passé en fait toute une construction idéologique qui remonte assez loin. J'ai mis ici un certain nombre de repères, je ne vais pas tous les détailler, mais je dirais l'important est de voir qu'il y a une création, une gradation d'abord du concept de sorcellerie et surtout une aggravation des mots qu'on leur prête et qui va forcément engendrer une agressivité à leur égard de plus en plus importante. Et donc le premier texte qui parle de sorcellerie, qui est un texte chrétien, date de 719 du synode de pape Jean IV. Alors dans ce synode, en fait, qui était réuni pour toute une série de raisons, on aborde le problème de la sorcellerie, mais uniquement pour dire d'abord qu'elle existe. Donc jusque-là, l'Église n'avait pas pris formellement position et ne s'était pas finalement tellement intéressée, elle avait d'autres choses à fouetter à l'époque. Et donc, en 719, Jean IV fait reconnaître l'existence de la sorcellerie, donc qu'il y a effectivement des hommes et des femmes qui possèdent des pouvoirs qu'on ne connaît pas très bien, dont on ignore un petit peu comment ils apparaissent, et qui agissent sur la nature et sur les hommes. Et donc, je vais dire, il n'y a pas ici à proprement parler de condamnation, mais donc une reconnaissance simplement du phénomène. Pendant près de 400 ans, il ne va rien se passer. Donc ce texte va, je ne vais pas dire rester lettre morte, mais en tout cas ne va pas connaître d'avenir particulier. Et puis on voit réapparaître au XIIe siècle, dans les écrits d'un théologien bien connu et important, qui est Alain de Lille, la première dénonciation de la sorcellerie. Alors que dit Alain de Lille? Simplement que, bien sûr, il fait comme Jean IV, il reconnaît l'existence du phénomène et il dit, bon, il y a des hommes et des femmes qui, dans nos territoires, concluent un pacte avec Satan, donc avec les forces du mal, et ils sont, si vous voulez, les serviteurs de Satan à l'intérieur de notre monde. Et donc, il faut avoir l'œil sur ces personnes, il faut s'enquérir de ce qu'ils font, et éventuellement peut-être les condamner, mais ici la position d'Alain de Lille est encore assez, je vais dire, hésitante. Au 180, je vous rappelle qu'on est à 20 ans de la création de l'Inquisition, donc on est aussi à ce moment-là en pleine réflexion dans l'Église, de savoir ce qu'est l'hérésie, de savoir qu'est-ce que les déviances par rapport à l'Église, et comment faut-il les traiter. Et donc la sorcellerie vient, je vais dire, incidemment, n'est pas un sujet principal en soi, mais fait partie de l'ensemble du débat. Là où ça va se corser un petit peu plus, c'est au XIVe siècle, avec un texte pontifical qui s'appelle la Constitutio Super Ilius, qui date de 1326, où la papauté va clairement donc définir la sorcellerie comme étant donc résultant d'un pacte satanique. Et là, c'est vraiment le point de départ, je vais dire, du développement futur, c'est-à-dire de lier indéfectiblement les pratiques magiques, mais aussi la sorcellerie telle que je vous l'ai décrite, hein, donc le fait d'être guérisseur et le fait d'être, je vais dire, de pouvoir dire l'avenir, comme étant issu d'un pacte avec Satan. Et donc c'est une création, je vais dire, ici de l'Église, ce n'est pas, oserais-je dire, un texte qui est une discussion à partir d'écrits révélés, ou non, c'est vraiment un texte théologique et juridique à la fois qui impose une nouvelle définition de la sorcellerie. Un pas supplémentaire sera franchi très rapidement, donc 10 ans plus tard, dans un texte non pas ici pontifical ou théologique, mais dans un texte de procédure, donc devant un tribunal ecclésiastique dans le duché de Brandebourg en Allemagne, où on va associer les luciférants, donc les adeptes de Lucifer, donc ceux qui ont signé le pacte avec Satan, et donc par extension le sorcier et la sorcière, à une secte. Alors là, ça devient extrêmement intéressant, dans la mesure où la sorcière, qui était toute seule finalement, hein, c'était peut-être une mère et sa fille dans un village, il y avait des sorciers et des sorcières dans les villages, dans les villes, mais il n'y en avait pas énormément. Tout d'un coup, on parle de secte. Donc le mot secte veut dire deux choses, en fait. Veut dire que d'un côté, c'est un groupe. Donc ce n'est pas une sorcière toute seule comme ça qui a conclu le pacte avec Satan. Non, c'est tout un groupe. Et c'est un groupe qui se réunit, une secte. En fait, c'est ça la définition. L'Église, au départ, est une secte. C'est un groupe religieux qui se réunit. Et donc, le fait d'accoler ce terme n'est pas du tout anodin et signifie donc que l'on est bien dans un mouvement construit et conçu comme tel, ce qu'on appellerait aujourd'hui une conspiration, mais aussi à une consonance hautement religieuse. Donc on n'est plus uniquement ici dans le magique, je dirais dans la guérison, on est dans le religieux. Et là, évidemment, ça va ouvrir un champ très important en termes de définition et en termes surtout de répression, de savoir qui va réprimer les sorcières. Alors, vous avez aussi toute une série de textes qui sont issus, je vais dire, de ce qu'on appelle la littérature démonologique. C'est un terme très compliqué pour dire qu'en fait, ce sont des textes qui sont fondés exclusivement sur l'idée de démontrer d'abord, un, que la sorcellerie existe, parce que même si le pape, depuis Jean IV, il dit qu'elle existe, il faut quand même expliquer qu'elle existe, il faut quand même prouver qu'elle existe, il faut la définir. Et il faut ensuite savoir ce qu'on va faire de ces sorciers et de ces sorcières. Et donc, entre, je vais dire, les années 1400 et grosso modo 1580, vous allez avoir une trentaine de textes différents qui vont être rédigés à travers l'Europe et qui vont connaître énormément de succès. Alors, j'en ai sorti quelques-uns ici qui sont, je vais dire, non seulement les plus intéressants et les plus ceux qui ont exercé le plus d'influence, mais aussi qui ont été, je veux dire, qui ont vraiment donné à la procédure pénale qui va être appliquée un élan très important. Alors, le premier, je vais dire, le plus célèbre d'entre eux, c'est le texte de Johannes Nider, qui s'appelle le Formicarius, donc il date de 1437, qui est à peu près le premier. Alors, ce Formicarius, en fait, en latin, ça veut dire la fourmilière. Alors, évidemment, rien que le titre, déjà, fait peur. C'était le but, bien entendu. Donc, non seulement on est passé d'une secte de quelques-uns, donc bien constituée, on passe ici à une véritable fourmilière. Donc, ça veut dire quoi? L'image de la fourmi, elles sont très nombreuses. Elles sont partout, peut-être. Et en plus, elles vivent dans la terre. Donc, elles sont mauvaises. Ce sont les forces du mal. Ce sont les forces chtoniennes qui s'opposent, aux forces de la lumière, aux forces de la religion, aux forces de Jésus, de Dieu. Et donc, vous avez ici, en un seul mot, résumé l'ensemble de la théorie de Johannes Nider. Alors, j'ai trouvé tout à l'heure un texte, alors je vais essayer de vous le lire, parce que d'abord, il est petit, et puis il ne fait pas très clair. Attendez, parce que ce n'est pas évident, ce sont des textes ici qui ne sont pas vraiment traduits. Voilà. Donc, pour Johannes Nider, en fait, la sorcière fait sept choses. Alors déjà, rien que le chiffre 7 est intéressant, puisque c'est un chiffre sacré, mais enfin, on ne va pas entrer dans la symbolique ici. Alors, d'abord, la sorcière provoque l'amour illicite. Alors, souvenez-vous qu'elle faisait d'origine des filtres d'amour. C'était plutôt positif, c'était plutôt pour se marier, pour avoir une vie de couple heureuse. Ici, on est tout de suite dans l'amour illicite. Donc, ça veut dire dévoyer la jeune fille, voler la femme de son voisin, etc. Alors, deuxième chose, c'est susciter la haine. Donc, elle monte les gens les uns contre les autres. Empêcher l'acte sexuel, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est le fameux nouement d'aiguillette chez les hommes. Et elle empêche également que les femmes soient fécondes. Donc, ce qui est un crime majeur, évidemment, pour l'époque. Elle déclenche les maladies. Hein, donc, on pense en général, quand on dit maladie, on pense, pas un rhume. Hein, on pense ici à des maladies virales graves, ce qu'on appelait les pestes. Au Moyen-Âge, donc ces maladies virales qui se répandent rapidement et qu'on ne sait pas guérir et qui font énormément de dégâts. Alors, autre mal qu'elle fait, elle rend les gens fous. Donc, elle leur fait perdre la raison, ils font n'importe quoi. Elle fait mourir aussi les gens. Donc ça, c'était la représentation que nous avons vue tout à l'heure. Donc elle les fait mourir de manière totalement anormale. Je vais dire, elle provoque des accidents mortels et des choses ainsi. Et surtout, elle les fait mourir de la façon la plus douloureuse possible. Donc c'est pas uniquement les faire mourir, non, en plus, il faut qu'ils souffrent. Donc c'est vraiment leur donner des maladies qui durent longtemps, etc. Et enfin, elle ruine les biens matériels. Donc tout ce qui est, tout ce qui peut faire la prospérité de quelqu'un va être ruiné. Et donc on touche ici, dès le départ, rien qu'à cette, je vais dire, cet énoncé de sept péchés, oserais-je dire, on touche évidemment à la transgression. Et c'est là que ça devient aussi très intéressant, c'est que la sorcière est quelqu'un qui transgresse. Elle transgresse le religieux, mais elle transgresse aussi la société. Et donc c'est là, si vous pensez à ce que je vous ai raconté il y a 15 jours, qu'on a aussi un point commun avec l'hérésie, telle qu'elle sera traitée au XVIe siècle, c'est qu'on est aussi dans la transgression de la société. Décidément, ce micro. Alors, ce que Nider dit également, si tu veux, on peut redescendre ou trouver un juste... Voilà. Entre les deux, oui. Ce que Nider va également instituer ici, c'est l'idée que Satan utilise finalement que des femmes, parce que les femmes sont des êtres fragiles, sont des êtres quelque part incomplets. Vous connaissez tous le récit de la Genèse, etc. Donc forcément, dès le départ, je vais dire, elle a quelque chose à se reprocher. Et donc, rien que par je vais dire, sa création, d'une part, et deuxièmement, du fait du péché originel, elle est fragile, beaucoup plus fragile que l'homme. Elle est donc plus prête à être dévoyée et à entendre les choses que Satan peut lui raconter. Et donc, c'est cela aussi, en cela aussi que, je vais dire, se fonde ici un sentiment très misogyne à l'égard des femmes, sentiment misogyne qui, par ailleurs, existe déjà largement dans la société du temps. Ce n'est pas une création ici, simplement, c'est une dimension, dans le cas de la sorcière, qui s'ajoute encore au reste. Donc, cette fourmilière va être publiée, je veux dire, bon, juste avant l'imprimerie, donc l'expansion du texte est un petit peu limitée, mais elle circule dans les milieux des théologiens, dans les monastères, et donc elle connaît un certain succès. Cette image de la sorcière va rencontrer son point d'orgue dans la fameuse bulle pontificale Summis Desiderantes de 1484. Alors, cette bulle, en fait, va instituer définitivement l'image négative de la sorcière comme étant le fruit, si vous voulez, d'une évolution depuis 719, donc depuis Jean IV, bon, j'ai un peu rétréci, bien entendu, ici, toute une série d'écrits des pères de l'Église. Et, je veux dire, vous combinez ça avec des écrits tels que le Formicarius et la misogynie de la société médiévale, et vous aboutissez donc à une image... je vais dire, très négative de la sorcière. Donc cette bulle, je vais y revenir dans un instant, va être, comme c'est un texte pontifical, c'est pas quelque chose qui circule, hormis dans les milieux ecclésiastiques, il va falloir appliquer cette bulle. Et donc, deux inquisiteurs, Institoris et Sprenger, deux inquisiteurs allemands, deux dominicains, vont rédiger ce qui reste aujourd'hui, je vais dire, le texte fondateur de la répression de la sorcellerie, qui est le fameux Maleus Maleficarum, et qui date de 1486, donc qui est rédigé sur base de la bulle pontificale. Alors, ce Maleus Maleficarum, c'est un guide, le petit guide du parfait inquisiteur contre la sorcière, on pourrait résumer ça comme ça, et qui donc va permettre l'application au quotidien, dans les tribunaux, tant civils que religieux, je vais y revenir également, de non seulement l'image de la sorcière, mais de la répression qu'on doit donc y appliquer. Alors ce genre d'écrit va circuler, le Maleus va connaître un succès phénoménal. D'abord, à la fin du XVe siècle, il y aura une première période de répression d'ailleurs qui va suivre. Et puis surtout, entre la période, je dirais, de répression la plus dure, qui est globalement 1580-1630, à travers toute l'Europe. Et cet ouvrage donc, va être réédité, puisqu'on a l'imprimerie à ce moment-là, donc on ne pose aucun problème de rééditer ce Maleus, qui va être complété, annoté, commenté par toute une série d'abord de théologiens, comme Francisco Peña, qui est un théologien d'origine espagnole mais attaché à la cour pontificale romaine, et puis par des juristes. Donc vous allez avoir un basculement, je vais dire, 15e, 16e siècle, c'est une question qui est entre les mains des théologiens, et puis à la fin du 16e siècle et au 17e siècle, cette question bascule dans la main des juristes, ce qui est aussi également un phénomène en soi intéressant. Et donc vous voyez se cristalliser à ce moment-là l'image de la sorcière comme étant une femme principalement ou un homme qui a conclu un pacte avec le démon, avec Satan, qui de plus va au sabbat. C'est aussi une création de cette époque-là, donc le sabbat, et le fait qu'elle a des relations sexuelles avec des démons, qu'elle s'envole par la fenêtre, qu'elle a un balai, etc. Donc, toute cette image-là, vous la trouvez dans le Malleus Maleficarum. La répression est définie dans ces textes comme étant nécessaire, non seulement d'un point de vue religieux, puisqu'il faut faire triompher la foi sur les ténèbres, mais aussi pour, entre guillemets, c'est pour ça que j'ai repris cette citation, prouver le bien public et terroriser le peuple. Donc on est ici aussi dans une dimension de normalisation des esprits. Donc vous avez deux pendants ici qui se chevauchent. Alors, je regarde ici. Par exemple, vous avez une définition ici très intéressante. Que sont les sorciers et les sorcières? Ce sont des vaudois. Vaudois qui est une secte d'hérésie. Vous voyez le point commun, évidemment, avec mon exposé de la semaine dernière. Les devins, donc ceux qui disent l'avenir. Sorciers, sorcières qui se veulent mêler de savoir les choses secrètes. Il y a donc des choses secrètes dont on ne peut se mêler. Comme qui a dérobé ou qui a fait ceci ou cela. Ou qui veulent savoir les choses à devenir, donc prévoir l'avenir. Et pour ce, ils font paction et promesse au diable afin qu'il le leur révèle. Donc ça, c'est le Malleus Maleficarum qui le définit en tant que tel. Deuxième point très important au niveau de la répression ici, c'est que, évidemment, la sorcellerie devient, je vais dire, non seulement un délit religieux, puisqu'on parle de secte, hein, 1336, on parle de secte, donc ça devient un délit religieux qui doit être jugé dans des tribunaux ecclésiastiques. Donc jusque-là, pas de problème. Comme je vous l'ai expliqué il y a 15 jours pour l'hérésie, les grands seigneurs, Charles Quint entre autres, veulent s'attribuer aussi les jugements en matière de religion ou d'hérésie. Ils vont faire de même avec la sorcellerie. Et donc ils vont recourir aux mêmes artifices juridiques pour démontrer que la sorcellerie, c'est aussi un crime de lèse-majesté divine et humaine, et que donc, à cet égard, ils ont également autorité sur les sorciers et les sorcières. Ils peuvent donc s'approprier les procès. Donc ça démontre effectivement ici une unité d'idées, une unité de gestion du religieux et du politique à l'intérieur des États modernes, donc de la Renaissance. Vous allez trouver ça dans nos régions. L'un des textes que Charles Quint va utiliser, c'est sa fameuse constitution caroline de 1540 qui concerne le Saint-Empire romain germanique, qui est une des zones où, principalement liée à de la sorcellerie, mais il y en a également dans nos régions. Et cette constitution caroline va déteindre, si vous voulez, sur les législations pénales européennes. Et vous allez notamment retrouver la même idée dans le fameux édit de François Ier, l'édit de Villers-Cotterêts de 1537, donc qui est légèrement antérieur, mais qui lie lui aussi crime de lèse-majesté divine et humaine, hérésie et sorcellerie. Et donc, dans ces conditions, je vais dire, la répression de la sorcellerie va se faire grosso modo comme celle pour l'hérésie. Il y aura quand même encore des inquisiteurs, il y aura une immixtion de la justice religieuse et ecclésiastique à l'intérieur de cette justice civile, pour la simple et bonne raison que c'est le même problème que pour l'hérésie, il faut savoir définir les idées qui sont émises par les personnes. Donc, pour l'hérésie, on a recours aux théologiens pour définir qu'effectivement la personne est bien hérétique, qu'elle professe des choses contraires à la religion catholique. On va utiliser également des inquisiteurs spéciaux ou des théologiens pour définir que les sorcières ont bien conclu un pacte avec le diable et que leur dire, je vais dire, et leur pouvoir sont magiques et donc ne peuvent pas être reconnus comme intégrés dans la religion, je vais dire chrétienne, puisque on aura une répression tant du côté catholique, bien entendu, que du côté protestant. Et donc on va trouver, soit dans les bulles pontificales du XVIe siècle, soit dans les édits des princes, des choses telles que vous pourrez, comme c'est votre devoir, de continuer à procéder contre tout magicien, sorcier et apostat, donc de nouveau un terme religieux qui est accolé ici, selon que l'exigera la nature du crime. Et donc, vous avez ici, je citais une série de textes pontificaux ici qui vont perdurer, faire perdurer cette vision des choses. Et donc, vous voyez que Urbain VIII, en 1623, continue toujours sur cette lancée et a donc à non seulement, je vais dire, faire traiter la sorcellerie, mais à faire condamner lourdement. Alors, ces images, notamment du sabbat, évidemment, vont connaître un succès sans précédent. Je veux dire, c'est peut-être ce qui définit principalement, tant dans le texte que dans l'imaginaire collectif, la sorcière. Et donc, vous avez ici des gravures d'époque, des dessins de Hans Baldung, donc, qui est un artiste allemand, un graveur allemand. Et donc, on vous montre effectivement les images qui circulaient à l'époque. Donc, je vous rappelle que les gens, je disais, pour la grande majorité, ne lisent pas encore. Et donc, l'image a un pouvoir très important. Et donc, on vous montre des images telles que celle-ci, du sabbat des sorcières. Donc, le feu, elle danse. Vous avez Satan qui est présent sous la forme d'un bouc ou sous une forme qui ferait penser, évidemment, à Pan. Hein, donc, vous avez là, à ce moment-là, la dimension sexuelle qui est vraiment mise en avant, et de transgression sexuelle, évidemment, qui est extrêmement présente. De l'autre côté, vous avez également ici donc, ces sorcières qui volent, etc., etc. Donc ça, c'est, je vais dire, l'imaginaire qui a été créé par l'Église autour du concept de sorcellerie. Et c'est clairement un imaginaire, c'est clairement une création. On le voit dans les textes, on voit, je vais dire, la doctrine, oserais-je dire ça, se construire pas à pas, texte après texte, réflexion après réflexion. Alors, je vais peut-être vous lire ce que c'est qu'un pacte, finalement. Parce que dans les procès, on trouve... Je suis partie dans le mauvais sens. Voilà. On trouve, évidemment, des récits. Les procédures, quand on les a en entier, sont extrêmement intéressantes. Elles sont, évidemment, le reflet de l'imaginaire qui est créé. Donc ça, c'est aussi... assez intéressant dans la mesure où une autorité crée une image et puis l'image finit par coller tout à fait au délit, oserais-je dire, alors que le délit d'origine n'existe pas. Donc ça, c'est tout à fait affolant en soi. Et donc voici un texte, en fait, qui date du début du XVIIe siècle, qui est un texte d'une religieuse de Lille qui, soi-disant, avait été possédée par le diable dans son couvent, et qui raconte, lors de son procès, la teneur du pacte qu'elle a signé avec Satan. Alors, je vais vous le lire, c'est du vieux français, mais je vais vous le retraduire en passant. « Moi, Marie de Saint, donc c'est son nom, bon, elle a 18-20 ans, la jeune femme ici, hein, c'est pas une vieille femme du tout, c'est une jeune, promets à toi, Belzébuth, que je vous servirai bien toute ma vie. Je vous donne mon âme, bon, ça commence déjà bien, toutes les facultés de son âme, tous les sens de mon corps, toutes mes œuvres, tous mes désirs et soupirs, toutes les affections de mon cœur, toutes mes oraisons et toutes mes pensées. Je vous donne toutes les parties de mon corps, toutes les gouttes de mon sang, tous mes nerfs, tous mes os et toutes mes veines, et tout ce qui est dans mon corps, et ce que créature peut vous offrir. » Donc elle se rabaisse évidemment au rang de créature. Et donc elle donne non seulement, je vais dire, tout ce qui est immatériel en elle, donc son âme, ce qu'elle peut faire, sa dévotion, son imaginaire, mais elle lui donne également son corps matériel. Je vous donne ma vie pour votre service, voire même si j'avais 1000 vies, je vous dévouerais toutes, de tout mon cœur, parce que vous le méritez et que vous voulez que je vous aime. Non seulement sa vie n'y suffit pas, mais peut-être les 1000 vies futures qu'elle pouvait espérer, puisqu'on est dans une dans une, je veux dire, une vision évidemment de survivance de l'âme, donc l'âme et sa vie ici entière, je vais dire, sans rémission. Ainsi, je renouvelle et ratifie toutes les promesses que je vous ai faites et promets que toujours je persévérerai en votre service pour recevoir vos commandements et les accomplirai de toute ma volonté. En conséquence de quoi, j'ai écrit et signé le présent texte, en fait, hein, de mon propre sang. Et donc, vous avez effectivement ici un exemple magnifique, je vais dire, de ce qu'est le pacte avec Satan. Mais si vous reprenez soit le Formicarius, soit le Malleus Maleficorum, ou les écrits qui ont été faits par la suite, vous retrouvez des textes quasiment similaires dans les descriptions que les inquisiteurs font du pacte avec Satan. Et donc, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est qu'on a tellement martelé aux gens ce qu'est la sorcellerie, ce qu'est le pacte avec Satan, ce que sont les mauvaises choses que ces sorcières font, que quand ces femmes, ici elles se prétendaient posséder, on sait aujourd'hui, grâce à la psychologie et à la psychiatrie, que bon, notre esprit peut aller en roue libre et peut nous inventer beaucoup de choses, elles le savaient tellement, elles avaient été tellement éduquées là-dedans, que forcément, quand elle s'est crue possédée, et qu'on lui a demandé ce qu'elle avait fait, elle a ressorti le message qu'on attendait d'elle, en fait. Il n'y a pas ici du tout d'esprit critique. Donc c'est un, je veux dire, des récits comme ça, vous en avez des dizaines et des dizaines, hein, tous quasiment calqués sur la même chose. Alors vous pensez évidemment que dans l'esprit de l'époque, dans l'esprit des juges, quand vous avez beaucoup de personnes qui vous rappellent la même chose, ils sont d'autant plus, eux, persuadés d'avoir raison. Donc c'est un cercle vicieux, c'est un serpent qui se mord la queue, bien entendu, continuellement. Alors ici encore une représentation du sabbat pour vous montrer aussi, c'est un Goya ici, un tableau de Goya du début du XIXe siècle, pour vous montrer qu'en Espagne, au début du XIXe siècle, tout cela était encore extrêmement vivace. Vous avez Satan ici, on va dire qu'il est très beau, hein, c'est un très beau taureau ici, mais avec, il y aurait moyen de l'analyser en termes de lien avec Pan, etc. aussi, hein, mais bon, on n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui, mais ce serait intéressant. Alors, comment se passe un procès? Alors, ici, vous avez donc une représentation, je vais dire, de la fin du XVIIe siècle, qui vous montre l'analyse physique de la sorcière. Donc, comme dans le cas de l'hérésie, souvent, au départ, il y a une dénonciation. Donc, une dénonciation qui peut être anonyme ou non, il y a dénonciation, et donc, à ce moment-là, s'enclenche une enquête. Soit par le juge civil, soit par le juge ecclésiastique, donc soit par le théologien ou l'inquisiteur, qui vont donc s'informer, donc c'est-à-dire faire venir à eux l'entourage, les accusateurs, aller dans le village, donc se rendre sur place ou en ville, mais en général c'est plutôt ici dans le village. Ils vont donc enquêter, prendre des témoignages à charge et à décharge. Donc on est dans une procédure très proche de celle de l'Inquisition pour hérésie. Mais la sorcière a ici la particularité, paraît-il, que le pacte satanique se conclut aussi par une marque sur son corps. Et que donc il serait assez aisé de savoir si la personne est effectivement sorcier ou sorcière en retrouvant cette marque. Et donc c'est la scène qui est représentée ici. Donc vous avez, je veux dire, c'est un peu ironique évidemment, hein, c'est une scène satirique, je vais dire, où vous avez le seigneur du village avec son notaire ici qui essaye de voir, évidemment elle est jeune et jolie, donc autant regarder effectivement, et vous avez le théologien qui est en train de la tâter à peu près partout pour essayer de trouver cette marque. Alors, les théologiens disent que cette marque consiste en une zone insensible du corps. Alors, ce n'est pas donc un bouton, ce n'est pas ça. Non, c'est une zone insensible. Et donc, ce qu'on fait, en général, on prend une aiguille et on pique la personne à peu près partout. Et on cherche donc cet endroit dans lequel elle n'aurait plus de douleur, puisqu'elle est insensible. On sait évidemment qu'au plus vous sursollicitez votre système nerveux, à un moment donné, lui, il va disjoncter, il va dire « je ne sens plus rien », il va se mettre en sécurité. Et donc, forcément, on va vous piquer, vous ne sentez plus rien. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, ces personnes sont piquées, puis à un moment donné, effectivement, on ne sent plus rien. Et ben voilà, on a trouvé la marque, c'est formidable. Et donc, on va instruire une procédure sur cette base-là. Autre manière de prouver aussi si la personne est une sorcière ou un sorcier, c'est ben, forcément puisqu'il a signé un pacte avec Satan. Satan ne veut pas que ses adeptes ou que ses esclaves ou que bon meurent. Il en a besoin. Donc forcément, si on met à mal la personne, il va intervenir et donc on aura une preuve tangible. Je vais dire non pas l'existence de Satan parce qu'ils en sont tout à fait convaincus, mais que effectivement la personne est liée par un pacte. Et donc on va user et abuser notamment de la torture, d'abord pour se faire avouer évidemment à la personne comment s'est conclu le pacte, etc., de dénoncer évidemment les autres, hein, puisque je vous rappelle qu'on est dans une fourmilière où il y a plein de sorciers et de sorcières cachés, donc il faut révéler les autres. Mais surtout en se demandant si Satan ne va pas intervenir pour mettre fin aux souffrances de la personne ou pour la sauver, etc. Une autre manière aussi qui a connu son petit succès à un moment donné a été d'enfermer la personne dans un tonneau et de jeter le tonneau à l'eau. Alors, et de voir si la personne survit ou pas. Alors je vous donne en mille d'essayer de survivre, hein, on vous jette sur la Meuse dans un tonneau. Je pense que vos chances de survie sont quand même assez limitées. Alors, le plus fin de tout, c'est que si vous vous noyez, ben, Satan n'est pas intervenu. Donc, vous n'étiez pas une sorcière. Ben, vous êtes noyé. Tant pis. Par contre, si vous survivez par un miracle quelconque, ben, c'est que Satan est donc bien intervenu. Et donc, vous êtes une sorcière, donc il faut vous juger, vous brûler, vous condamner. Donc, finalement, oserais-je dire, vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir dans un schéma tel que celui-là. Alors, je vois ici, on m'a mis une deuxième procédure ici, où vous avez un cas ici de possession. Donc, vous pensez à Poltergeist, hein, c'est exactement ça. Donc, c'est la personne qui se jette par terre, qui bave, etc., qui raconte n'importe quoi. Hein, elle est possédée par le diable, etc. C'est aussi une vision, je vais dire, qui était largement répandue à l'époque, et on a des cas dans des procédures, pensons par exemple au possédé de Loudun, où ces femmes entrent en transe, alors qu'elles sont interrogées en plein procès, etc. Et donc ce sont effectivement des phénomènes que les gens ne comprennent pas à l'époque, qui font peur, puisqu'ils ne les comprennent pas, et ils n'ont comme seule justification que de se dire, bon, elles sont possédées par Satan. Alors je vais passer un petit peu ce que j'avais prévu ici, puisqu'on on en a parlé la semaine dernière, donc de cette manière dont Charles Quint, mais aussi les grands royaumes, je veux dire, de la Renaissance, se sont donc appropriés, le délit d'abord d'hérésie et puis ensuite de sorcellerie. D'abord, dans le cas de la sorcellerie, en récupérant une série, de textes législatifs qui étaient axés sur l'hérésie, mais en les réadaptant, en les appliquant à la sorcellerie, ça c'est surtout durant le règne de Charles Quint, où paradoxalement il n'y a pas beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup d'hérésie, il y a très peu de sorcellerie. Et puis par la suite, par une législation particulière, donc c'est-à-dire des édits, surtout de Philippe II, qui vont prolonger, si vous voulez, les édits de Charles Quint en matière d'hérésie, mais qui vont les adapter à la sorcellerie. Donc je ne vais pas ici, puisque vous avez eu la matière, je vais dire vous prolonger indéfiniment là-dessus. Donc, je vous avais repassé les cartes. On va repasser ici. Ça, vous l'avez vu également la dernière fois. Donc, ici, existe-t-il une définition particulière à la Renaissance du crime de sorcellerie? Ben, on va répondre oui. Je pense que je vous en ai déjà abondamment parlé ici. Donc, peut-être. Et si on a trois textes, en fait, issus, de ses principaux écrits, donc, celui qui invoque le démon en lui rendant un culte de latrie, donc un culte d'idolâtrie, et qu'il avoue, ou qui en est judiciairement convaincu, sera traité non pas en devin et en magicien, mais en hérétique. Et donc là, vous avez, donc, dès 1376, le lien indéfectible entre sorcellerie et hérésie, tout en, je souligne ici, en mettant à part tout ce qui est magique et les devineresses. Hein, comme je vous ai dit au tout début, là on est à la limite, on est à la frange, c'est quelque chose dont, je vais dire, finalement tout le monde a encore besoin, donc on ne le condamne pas, on le met juste à l'extrême limite, mais tout ce qui est autre comportement sera condamné. Donc, dans le Malleus, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le lire ici, mais c'est la même chose. Donc, on parle carrément de l'hérésie des sorcières. Donc là, l'adéquation est à 100% faite. Et alors, petite chose intéressante aussi que vous trouvez dans le Malleus, que je vous ai dit également, les aveux des sorciers, jusque dans les supplices, nous ont donné une telle certitude des crimes perpétrés que nous ne pouvons plus, sans risque pour notre propre salut, cesser notre activité d'inquisition contre eux. Et donc, vous voyez aussi qu'ils sont déjà dans la boucle. Donc, parce qu'on leur a raconté des récits de sorcellerie, ils sont convaincus que la sorcellerie existe, ils la répandent, et donc, ça rentre dans l'imaginaire collectif, et donc, vous avez le retour de balancier, bien entendu. Dans les procès, vous retrouvez l'image qu'eux-mêmes ont créée dans leur texte. Et Francisco Peña, donc, qui commente le Malleus plus d'un siècle plus tard, va continuer donc, à faire cette liaison. Je vois que le temps tourne. On va avancer ici, passer tout cela. Donc ça, c'était la structure, si vous vous en souvenez, la structure judiciaire donc, de nos régions. Donc en deux mots, la sorcellerie va donc être traitée comme l'hérésie, donc à partir des bans échevinaux et des justices de ville, donc au niveau le plus inférieur de la justice criminelle, ce qui va bien entendu assurer le succès de la répression, puisque comme je vous l'avais expliqué, les structures supérieures n'étaient pas assez suffisantes en nombre ni en personnel, je dirais, pour assurer des procès tels que ceux-là. Alors, quelles sont les pénalités qui sont appliquées à la sorcellerie? Bon, je ne vais pas ici vous faire le catalogue de tout ce qu'on peut leur faire, mais simplement, vous avez ici une représentation de ce test hein, de la noyade. Donc ici, elle n'est pas dans un tonneau, mais elle est bien liée pieds et mains, donc voilà. Ça se pratiquait également de cette manière-là. Et bien entendu, le supplice le plus usité a été de brûler les sorcières. Vous avez ici une représentation en fait, qui figure dans un registre de sentences de l'échevinat de Lille et qui montre, en fait, le greffier, à mon avis, s'ennuyait copieusement. Et donc, il a dessiné ceci en marge, ce qui explicite, c'est forcément le texte qui est à côté, qui est une condamnation d'une femme à être brûlée. Et donc, vous avez une représentation ici assez particulière, je dois dire. Je n'en connais pas d'autres de cette manière-là, de brûler quelqu'un. Alors, les châtiments, vous avez ici encore d'autres représentations. Ça, c'est aussi encore... C'est le même greffier, hein, il était très inspiré dans son registre. Une autre représentation donc, de ces condamnations. Donc, on est en 1611. Donc, vous voyez qu'on continue à pratiquer ici. Et de l'autre côté, donc c'est ce qu'on appelle une feuille volante. Alors, c'est quoi une feuille volante? Je vais dire, c'est le journal de l'époque. On n'avait pas encore inventé de journal tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Et donc, pour faire balader les nouvelles, on faisait une feuille volante, donc c'est-à-dire une feuille à peu près d'un format A4, globalement, imprimée, et que soit les marchands, soit les colporteurs transportaient avec eux et distribuaient. On pouvait acheter les nouvelles. Et comme je vous l'ai dit, les gens, la moitié de la population au moins ne lit pas, donc on fait une très belle illustration, et puis en dessous on fait le texte. Donc pour ceux qui lisent peuvent lire aux autres, et ceux qui ne savent pas, ben, ils ont l'image pour comprendre ce qui se passe. Et donc ici vous avez le récit d'un procès qui s'est passé en Allemagne dans les années 1555, et ben, vous avez tout de suite compris ce qui est arrivé à la personne, évidemment. Hein, elle a donc été brûlée. Et donc, le fait aussi de répandre toute cette imagerie, tous ces récits, concourt aussi à faire bien comprendre aux gens qu'il ne faut pas conclure de pacte avec le diable. Hein. On est vraiment ici dans une, je vais dire, dans une vision préventive et aussi une justice qui fait peur. Hein, comme je l'avais dit pour l'hérésie, on est aussi dans la même logique ici de montrer l'exemplarité du châtiment. Au plus il est dur, au mieux c'est, et au plus il se répète, au mieux c'est. Et donc, on va effectivement brûler et condamner énormément de sorciers et de sorcières, dans le but, d'abord de les éradiquer, bien sûr, mais aussi de faire justice exemplaire. Donc, vous avez aussi des pendaisons collectives qui sont faites ici. Vous en avez un exemple ici en dessous, encore ici, un bûcher, je pense qu'ils sont plusieurs, oui, ils sont plusieurs ici. Où vous avez d'ailleurs une intervention, on ne voit pas très bien, une intervention de Satan qui essaye d'enlever des flammes une sorcière pour la sauver. L'image est un peu coupée. à mon avis, elle n'est pas complète, c'est un morceau. Et donc, en fait, grosso modo, dans nos régions, je vais dire, la sorcellerie concerne 1480-1680, grosso modo. Donc, c'est 200 ans avec, je vais dire, des périodes paroxystiques, dont la plus importante est celle de 1570 à 1630, qui correspond, en fait, à une période de guerre très intense. Donc, il y a, je dirais déjà, une guerre, c'est la guerre de 80 ans qui a débuté, qui enflamme, je veux dire, la moitié de l'Europe, et surtout qui concerne les régions où la sorcellerie va être jugée avec beaucoup de sévérité, donc tout le Saint-Empire, la Lorraine, les Flandres, c'est-à-dire nous, et la France. Donc vous avez aussi l'image d'un ennemi extérieur, puisqu'ils sont en guerre entre eux, tous ces pays sont en guerre entre eux, mais vous avez aussi l'image de l'ennemi intérieur, qu'il faut détruire, évidemment, je vais dire, de la même manière que l'ennemi extérieur. Les moyens mis en œuvre, évidemment, sont différents. Mais donc, c'est une vision, en cette période 1570-1630, de guerre totale, dirions-nous. Et donc, on ne peut pas laisser dans l'esprit des dirigeants coexister à l'intérieur des États des gens qui ne se conforment pas à la société telle qu'ils souhaitent qu'elle soit. Donc, c'est le problème de normalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, des esprits. Alors, on a ici, je sais, elle vole. Donc, vous avez ici un tableau, en fait, qui vous donne une idée de l'ampleur aussi de la répression, du chiffre que l'on peut donner à cette répression. Donc, qui a concerné, vous voyez, on a essayé ici de faire, une vision européenne globale. Et donc, si on compare nos régions, par exemple, avec l'Allemagne, vous avez en chiffres, c'est l'Allemagne qui remporte le pompon quand on vous dit qu'il y a 3229 exécutés. Donc ça veut dire, partez aussi dans l'idée qu'on n'a pas retrouvé tous les procès. Hein. Les corpus ne sont pas complets, donc on a pour certaines régions que des choses parcellaires. Mais les proportions, je vais dire, en mon sens, on les a. Donc l'Allemagne du Sud-Ouest, là c'est une véritable hécatombe, avec plus de 3000 exécutions. Si vous regardez pour le reste, les autres régions, en fait, les pourcentages sont beaucoup plus soft que celui en Allemagne, même si nos régions se défendent malheureusement bien. Donc, quand vous avez, rien que pour le Namurois, 366 exécutions, on est quand même assez sidéré de se dire dans une région rurale qu'était le Namurois à l'époque, 366 exécutions, c'est énorme. Proportionnellement. C'est proportionnellement plus énorme que sur l'ensemble du sud-ouest de l'Allemagne. Vous avez également des études sur le nord de la France où vous trouvez des proportions similaires. 294 exécutions sur le nord de la France. Ce sont des régions où, effectivement, vous avez eu, je vais dire, une... C'était paroxystique, enfin, c'était vraiment une... épouvantable. C'était une répression... qui cherchait les gens. C'était pas juste réagir, c'était vraiment une véritable inquisition où on cherchait les gens. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu fragmentaire. Donc on a moins de 150 personnes ici pour le nord de la France, 66 pour le Namurois et 547 pour le Luxembourg. Alors c'est assez. Vous me ferez remarquer des régions plutôt rurales, sauf le nord de la France. Ce sont des régions rurales, des régions de forêt. Ce qui fait considérer qu'en fait, la sorcellerie, si vous voulez, était plus conservée dans ces régions rurales, plus éloignée aussi des centres de pouvoir, et que la normalisation, dans ces régions, la normalisation se faisait plus difficilement que dans les grandes villes du Brabant ou de Flandre, par exemple. Et donc, la sorcellerie a aussi, ce délit, si vous voulez, a aussi servi à normaliser les campagnes, à permettre une emprise de la religion plus importante peut-être qu'elle ne l'avait eue avant, du fait que, comme on a, entre guillemets, éradiqué ces pratiques magiques, cette sorcellerie, ou on a essayé en tout cas de l'éradiquer, on sait bien qu'ils n'y ont pas réussi complètement, à l'éradiquer, on a remplacé cela par la religion. Et donc cela a permis de renforcer l'emprise de la religion chrétienne, catholique dans ce cas-ci, sur ces régions-là, face au vide, je vais dire, qui avait été laissé par l'absence de ces femmes. Alors, je signale quand même que tous les inculpés ne sont pas exécutés. On est à peu près 50%, ce qui est énorme par rapport à l'hérésie, on était dans les 20%. Donc la répression était encore beaucoup plus dure ici que dans l'hérésie. Et donc la persécution vise essentiellement quasiment les femmes. Suivant les régions européennes, on va de 70 à 90%, en moyenne donc 80% est un calcul assez simple. Alors heureusement, vais-je dire, heureusement, des personnes vont quand même revenir à la raison. Parce que bon, ce que je vous ai décrit, c'est épouvantable, c'est la création d'une image qui n'est pas conforme à la réalité, c'est coller sur le dos de ces femmes un délit qui n'en était pas un. Et donc vous allez avoir des réactions dès le milieu du XVIe siècle, dans certains milieux humanistes d'abord, et puis ensuite, curieux, que je vais dire, retour de balancier au sein de l'Église, par des personnes, des théologiens et des médecins qui vont se rendre compte qu'en fait, il se passe quelque chose d'anormal. Qu'il n'est pas normal qu'on constate des, entre guillemets, je vais dire, des épidémies de possession dans des couvents, par exemple. Et ça, ça va intriguer très fort Jean Vir, qui est un médecin allemand, qui va d'ailleurs écrire un texte pour lequel il va se avoir énormément d'ennuis, où il va dénoncer, je vais dire, le traitement qui est fait pour ces femmes, soi-disant possédées par le diable, et que lui décrit comme étant malade psychiquement, je vais dire. C'est quelqu'un qui avait compris qu'elles fabulaient, qu'elles étaient dans un imaginaire, et que le corps, je vais dire, agissait de telle manière qu'on croit, si vous voulez, ce qu'elles disaient. Qu'il y avait une liaison entre, oserais-je dire, le corps et l'esprit qui se manifestait. Jean Vir est un humaniste, il a été, je vais dire, en relation notamment avec Montaigne, d'où je vais dire le signalement que je fais ici, dans certains textes des essais de Montaigne, il se montre extrêmement prudent également, en disant qu'il n'est pas certain qu'on a affaire ici à de la possession, mais plutôt à de la maladie, que l'on ne comprend pas, il le dit, on ne comprend pas, mais pour lui ce n'est pas de la possession. Le coup fatal, je vais dire, à cette vision de la sorcellerie va être porté par trois théologiens allemands, Adam Tanner, Paul Lehmann et Friedrich von Spee, surtout Friedrich von Spee, qui vont donc rédiger des textes pour démontrer la fausseté et, si vous voulez, déconstruire ce que l'Église a construit. Donc expliquer qu'effectivement, ces personnes ne sont pas possédées et qu'elles sont malades. Et c'est vraiment, je dirais, l'argument médical ici qui va être mis en avant. Il faut dire aussi que dans les années 1630, ils ont été confrontés à une série de procès qui ont, je ne vais pas dire mal tourné, mais en tout cas qui ont jeté le doute. Et je pense notamment aux possédés de Loudun. On est, à ce moment-là, il y a eu d'autres cas de possession dans des couvents où, je vais dire, ils se sont rendus compte de la répétition absolue des récits faits par ces nonnes. Ils se sont dit que ce n'est pas possible qu'elles racontent toutes la même chose, ça se répand comme une épidémie, et qui donc il y a un autre problème. Et donc la discussion autour de la sorcellerie va quitter, je vais dire, le domaine religieux aussi, et va entrer dans le domaine juridique à ce moment-là. Puisque le Parlement de Paris, les magistrats du Parlement de Paris, qui est la plus haute instance judiciaire française, va, dès les années 1635, demander aux juridictions locales d'être particulièrement prudentes sur les questions de sorcellerie, et en 1640, va arrêter les procès en sorcellerie, et va déclarer son incompétence face à ce délit, je vais dire. C'est le Parlement de Paris qui, en Europe, sera le premier à mettre un frein et à dire nous sommes dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas, nous ne savons pas si c'est du religieux ou si c'est du médical. Donc c'est pour vous dire que là, je vais dire, le progrès médical, malgré tout, était là. Et aussi le doute par rapport aux arguments avancés par l'Église, non pas que l'on doute à ce moment-là de l'existence de Satan, pas du tout, mais simplement, ils se rendent compte que la construction idéologique construite par l'Église depuis le Moyen-Âge ne tient plus la route et qu'il faut rester extrêmement prudent. Ce qu'Urbain VII dira d'ailleurs en 1637, donc le pape lui-même reconnaît qu'il y a, oserais-je dire, doute sur la question et demande donc une limitation des persécutions. Et ce sera en France le cas déjà sous Louis XIV, qui, au début de son règne, va demander une limitation des persécutions et va, vers 1682-1685, demander l'arrêt des procédures. Dans nos régions, il y aura encore des procès en sorcellerie jusqu'au début du XVIIIe siècle, mais les condamnations seront légères. Donc, en général, il y a procès, mais soit il y a condamnation à une amende ou des choses ainsi, ou bien il n'y a même pas de condamnation du tout. Et donc, vous voyez qu'il y a, un délitement de ce délit et de ces procédures au fur et à mesure du temps et qui vont disparaître, non pas par un édit qui va être fait, mais qui vont disparaître de facto dans la législation. Alors, je ne sais pas encore ici.
Il va se passer quelque chose.
Il se passe quelque chose, c'est magnifique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, je suis là.
Voilà, je remercie aussi Aline Gossens et je vous propose immédiatement d'intervenir
à propos de, des épidémies de possession dans les couvents. Est-ce qu'on n'a pas parlé aussi de, de nourriture qui aurait été avariée ou quelque chose comme ça?
Oui, c'est-à-dire que c'est possible. On sait par exemple que l'ergot de seigle, qui est une vermine, qui est un champignon plutôt, qui se met sur le grain quand il est mal conservé, est hallucinogène. Et donc, oui, forcément, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a aussi l'imaginaire exacerbé de jeunes femmes enfermées contre leur volonté dans le couvent. Et donc, vous avez dans certains textes des descriptions sexuelles, qui sont assez hallucinantes, mais qui révèlent en fait les frustrations de ces jeunes femmes aussi. Parce qu'ici, ce ne sont pas les vieilles qui fantasment, ce sont les jeunes. Hein, ce sont dans le cas de possession de Loudun, ce sont des jeunes. Dans le cas de la jeune femme dont je vous ai lu le texte, ce sont des jeunes femmes également. Donc il y a toute une série d'ordre de problèmes d'ordre psychologique, mais probablement aussi d'ordre de nourriture, de privation en tout genre, qui agissent, bien entendu, oui. Et c'est ça qui a jeté le trouble aussi, hein, bien entendu. Vous battez pas, hein.
On peut se demander pourquoi. Et comment, au moment de la Renaissance, de ce renouveau intellectuel, ce genre de choses arrive? Et par exemple aussi Jean Bodin, que vous avez cité dans La démonomanie des sorciers, quand on compare les éditions qui arrivent dans les Pays-Bas, dans les années 1580, eh bien, chaque fois qu'il est question de prêtre sorcier, le mot prêtre disparaît.
Tout à fait.
Des sorciers. C'est assez, assez stupéfiant. Et comment ce bonhomme, un juriste si éminent, se laisse aller à accepter les sorciers, à les condamner, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête,
hein? Ben, je dirais qu'il n'est pas le seul. Hein, ce que vous ce que vous constatez, en fait, c'est qu'on est dans deux champs différents. Donc il y a l'humaniste d'un côté, mais qui parle du genre humain. Et puis vous avez l'homme. Et comme je l'ai dit un tout petit peu ici, vous êtes confronté à une société profondément misogyne dans laquelle la femme a une image, foncièrement négative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est la partie faible, oserais-je dire, du genre humain. Elle est susceptible d'être pervertie. On la décrit aussi à l'époque de la Renaissance comme étant une femme affamée de sexe. Le désir des hommes est provoqué parce que c'est la femme qui le demande. Ce n'est jamais finalement parce que l'homme a un désir d'une femme. Non, c'est la femme qui provoque le désir. Et donc la faute, quelle qu'elle soit, est toujours, toujours rejetée et portée sur la femme. Et donc ils sont, ces hommes, même tout humanistes qu'ils sont imprégnés de cette culture-là, profondément. Et donc ils ne parviennent pas à s'en détacher. Donc pour eux, l'existence de Satan, quelqu'un comme Jean Bodin qui est croyant, ben, si vous croyez en Dieu, vous croyez en Satan. C'est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas séparer à ce moment-là. Et les sorciers et les sorcières sont la démonstration de l'existence de Satan. Oserais-je dire de par là même de l'existence de Dieu, etc. Hein, donc on est parti dans un débat philosophico-théologique qui n'a pas lieu ici. Mais ils sont aussi hommes de culture, mais de leur culture populaire. Pas uniquement d'une culture humaniste, de la culture populaire, du monde dans lequel ils vivent. Et donc, ils ne parviennent pas à se détacher de ça. Et d'ailleurs, j'ai apporté, parce que justement, ça me titillait tout à l'heure aussi, et j'ai cherché un peu des textes ici pour vous donner une description, par exemple. Attendez, je crois que j'ai justement un texte de Baudin ici. Il faut que je trouve, parce que j'ai mélangé mes feuilles, ce qui n'est pas bien du tout. Oui, c'est pas un texte de Baudin ici, c'est un texte du Malleus Maleficorum. Donc, il décrit les femmes et il dit... On s'aperçoit après examen attentif que la plupart des royaumes de ce monde ont été ruinés par des femmes. Il prend comme premier exemple la ville de Troie, doit sa perte au fait qu'une femme fut violée et que des milliers de Grecs perdirent la vie dans les combats qui s'ensuivirent. Le royaume des Juifs disparut à cause de Jézabel et Rome à cause de Cléopâtre, la pire de toutes, souligne-t-il. Et ainsi de suite, ce n'est donc pas par hasard si le monde est maintenant jeté en pâture. Attendez, parce que j'ai un problème de... jeter en pâture à la méchanceté des femmes. Voyons un autre aspect de sa personnalité, sa voix. Elle est née menteuse. Et tous ses mots ne sont donc qu'aiguillons venimeux. Sa voix peut charmer comme celle des sirènes, dont le chant ensorcelait les marins pour mieux les tuer. Elle est plus cruelle que la mort, car celle-ci est naturelle et ne détruit que le corps. Le péché qui soigne de tous les pores du corps de la femme détruit l'âme, en la privant de la grâce, et jette le corps dans les abîmes du péché. Donc j'invente rien, hein, c'est le texte tel qu'il est. Toute la sorcellerie vient du désir charnel, qui chez elle est insatiable. Et pour se satisfaire, elle n'hésite pas à épouser des démons. On sait désormais qu'il y a beaucoup plus de femmes infectées par l'hérésie de la sorcellerie. Donc voilà, je vais dire intrinsèquement ce que quelqu'un comme Baudin a en lui, ce qu'il lit. Et quand il écrit la démonomanie, ben, il a lu le Malleus, et donc il continue, je vais dire, dans cette même voie misogyne où la faute originelle et les autres sont portées par les femmes. Et donc ici aussi, il faut, je dirais, dans le cas de la sorcellerie, avoir bien ça à l'esprit. C'est un petit peu comme dans le cas de l'hérésie, où on peut se poser la même question que des humanistes. Je pense à des gens même comme Thomas More qui ont payé de leur vie, mais qui étaient profondément humanistes. C'était un homme qui avait une vision du monde universelle, a pu cautionner la répression, a pu faire brûler des hérétiques. Pour lui, ça faisait partie d'un tout, c'était normal dans sa pensée. C'était nous, évidemment pour nous, c'est difficilement concevable. Mais pour lui, c'était partie d'un tout. Un peu sa face cachée, on va dire, sa face plus noire.
Alors, le ballet, que représente-t-il ?
Ah, ben le ballet, ça peut être l'instrument phallique, bien entendu. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute. Mais donc, ça rejoint évidemment toute cette littérature, je vais dire, profondément misogyne, si j'ose dire. Donc, voilà.
Dans le milieu du siècle dernier, dans les années 60, 70, le Centre national de recherche scientifique en France a fait étudier la sorcellerie dans la Mayenne et dans l'ensemble du bocage normand, disons, enfin, dans l'Ouest. Et la dame a écrit tout un bouquin, j'ai oublié le titre.
Mais oui, enfin, je ne sais plus non plus, mais oui, je vois très bien de quoi vous parlez.
Le plus étonnant de tout ça, c'est que vers la fin du livre, elle dit, écoutez, de toute façon, ici, maintenant, j'arrête. Parce que, à force de tremper dans tout ça, je suis moi-même ensorcelé, donc je n'ai plus la capacité, plus le recul scientifique.
Tout à fait.
Je ne peux donc plus que me taire. Mais cette dame était sociologue, chercheur,
tout à fait
mandatée par. Tout à fait mandatée.
Tout à fait. Mais parce qu'il y a des choses qui sont troublantes. Je vais dire, c'est du domaine, je ne vais pas dire du magique, mais on sait très bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent sorciers. Moi, je n'ai pas d'avis, je vais dire là-dessus. Mais on sait très bien que toute une série de pratiques ont survécu, hein, bien entendu, à cette répression. Donc, il y a encore des gens qui vont, je veux dire, à l'arbre à clous et d'autres pratiques de cet ordre-là. Donc, voilà. Oui, monsieur.
Oui, pourquoi utiliser le mot de sabbat pour les fêtes ? C'est aussi une fête religieuse juive. Est-ce qu'il y a une relation ?
Oui, il est probable qu'il y a eu ici une... comment je vais dire ? Le judaïsme profondément rejeté, ils sont profondément antisémites également à l'époque. Hein. Donc le fait d'utiliser le sabbat est probablement un lien, mais je dirais, je verrais peut-être ça quand même comme une autre origine, mais je ne saurais pas vous préciser laquelle. Là, je ne sais pas. Franchement, d'autant que c'est Shabbat en hébreu, donc c'est pas tout à fait Sabbat, donc je partirais peut-être sur une origine plutôt latine du mot, mais en fait, le sabbat pour eux, c'est vraiment c'est la réunion avec le, je dirais, les sorcières entre elles, avec l'arrivée de Satan et le pacte qui se conclut, je vais dire, par écrit, mais charnellement également. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur.
Je voudrais simplement signaler que l'Église a encore des exorcistes aujourd'hui.
Non, tout à fait. Il y en a un nouveau, je crois, qui est arrivé à Namur. J'ai vu un article dans le journal il y a, je dirais, 15 jours, je crois. Il y avait un nouvel exorciste à l'évêché de Namur. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, eux n'ont pas renoncé, on va dire.
Ce qui veut dire que pour l'Église, la sorcellerie existe toujours ou la possession?
Bien entendu. Oui. Bah oui, puisque Dieu existe, Satan existe, donc la sorcellerie existe toujours. Mais on ne réprime plus. Pour l'instant, peut-être, je ne sais pas. Mais... Non, mais on ne réprime plus. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de texte non plus qui met fin. C'est comme pour l'Inquisition. Il n'y a pas de texte qui a mis fin à l'Inquisition. L'Inquisition existe toujours. Donc elle laisse ces choses-là pendantes. Et voilà.
Lorsque vous parlez des guérisseuses, je pense que la plupart du temps, elles étaient condamnées à cause des potions abortives qu'elles composaient. Avec
oui, elles composaient ça également. Oui,
je crois que... Pour l'Église, c'est un péché.
Je vais dire qu'elles étaient condamnées par l'Église, mais qu'en général, la communauté les protégeait parce que c'était bien utile de temps à autre. Donc, c'est plutôt ici l'Église qui a rendu ce genre de pratique non convenable, je vais dire. Mais oui, bien sûr, elles pratiquaient ce genre de choses.
Lors de la précédente conférence, vous avez parlé des châtiments. Oui. Notamment, donc, vous avez dit que les femmes n'étaient pas brûlées, mais ici, apparemment, mais les sorcières, ici, c'était différent.
Oui, c'était différent dans la mesure où, comme elles étaient sataniques, il fallait les purifier. Et donc, je vais dire, le feu ici était plutôt purificateur, même si dans l'hérésie aussi, je vais dire, on est à la frange, mais on a plutôt brûlé des hommes là-bas. Que des femmes. Ici, il n'y avait pas ce regard pudique. La sorcière étant impudique par nature, je vais dire, il n'y avait plus de matière d'être pudique à cet endroit-là. Il y a tout un débat, d'ailleurs, je suis retombée dessus tout à l'heure, de savoir si on les étranglait avant ou pas. Donc, il disait qu'il valait peut-être mieux pour le confort des spectateurs. Ce qui fait toujours plaisir à lire.
Est-ce que le phénomène de sorcière existait aussi dans l'Orient, c'est-à-dire du côté de la Chine, par exemple?
Là, vous me posez une colle. Là, j'avoue que vous me posez une colle. J'imagine qu'il doit y avoir des chamans et des choses ainsi, puisque c'est quelque chose... Mais les sorciers en tant que tels, je ne saurais pas vous répondre.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris pourquoi tout d'un coup ça se cristallise sur la sorcellerie qui devient un problème.
Et en fait, ça devient un problème parce que c'est comme dans le cas de l'hérésie, ils constatent un certain nombre de procédures et de personnes. Et donc, il y a un emballement qui se produit à ce moment-là parce que quand on sait ce qu'on cherche, on trouve. Et donc, il y a une cristallisation. On est parti des textes de départ, on a découvert des sorciers et des sorcières, on s'est rendu compte que le phénomène était plus grave que prévu, et donc on a augmenté, si tu veux, le nombre de textes et le nombre de législations et de lois qui sont faites, et comme on applique la répression de manière plus dure, on trouve plus de gens, et donc tu as un emballement qui se produit de cette manière-là.
Et pourquoi au départ c'est devenu un problème? D'où? Parce qu'au départ, c'était bien intégré, ça ne posait pas.
Si on revient au tout début, donc au 8e siècle, ça devient un problème dans la mesure où l'Église est en train de se constituer comme une institution régulatrice, je vais dire, au niveau religieux, au niveau moral et au niveau sociétal en général, et que donc elle s'intéresse à tout ce qui est à la marge. Et tout ce qui est à la marge pose problème, et donc elle finit par définir ce qui est à la marge, et puis par l'exclure. Et donc la sorcellerie est prise, je vais dire, dans ce schéma-là, comme l'ont été les hérésies du début, hein, je vais dire, de 6e, 7e, 8e siècle, etc. Donc ce n'est pas un phénomène en soi particulier, elle a été prise dans le même tourbillon.
Vous avez signalé que 50% des personnes qui étaient soupçonnées n'étaient pas condamnées. Qu'est-ce qui se passait alors pour cette moitié-là qui était soi-disant sauvée? Est-ce que c'était possible de reprendre des activités normales?
Non, c'est extrêmement difficile dans la mesure où en général les gens quittent leur communauté. Le fait d'avoir été, convoqué devant le juge, on ne sort pas indemne. Sa réputation ne sort jamais indemne de ça, donc la plupart des gens partent. Et donc, quittent leur communauté, vont dans une autre communauté où on ne les connaît pas et refont leur vie comme ça. Donc, je vais dire, même si s'il n'y a pas de condamnation du tout, où on ne sait rien prouver du tout, la personne est entachée. Et donc, par contre, la conséquence est quand même, je vais dire, que la personne est pénalisée, malgré tout. Et donc, vous avez une rupture de solidarité dans les communautés et ces gens s'en vont. Parfois pas très loin, hein, parfois 100 km, à l'époque c'est un monde, hein, 100 km. Donc ces femmes quittent et s'en vont.
On connaît les procès en sorcellerie dans l'Amérique du XVIIe siècle.
Sorcière de Salem.
Sorcière de Salem. Est-ce que c'était une pratique courante? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de procès en sorcellerie en Amérique?
Ben, les procès en sorcellerie en Amérique ont été quelque part importés d'Europe. Hein. Donc les colons qui se sont installés en Amérique ont importé toute cette vision, bien entendu, des choses. Vous donner des chiffres, je pourrais franchement pas. Mais je pense que ça s'est limité également au XVIIe siècle et que ça s'est éteint par la suite. Sous les mêmes raisons, je vais dire qu'en Europe, il y a eu une décroissance assez rapide dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc là, le cas des sorcières de Salem est tout à fait emblématique. On est parti là vers d'autres choses, aux États-Unis, par exemple, se sont développées aujourd'hui là, ce qu'on appelle la sorcellerie Wicca et des choses ainsi qui n'ont pas tout à fait à voir avec ceci. Donc il y a eu, je vais dire, les colons qui sont venus ont importé avec eux et puis ça s'est dilué et ça s'est retranscrit autrement, je vais dire.
Vous avez dit ce qu'on reprochait plus particulièrement aux sorcières et aux sorciers.
Ah, mais c'est à peu près la même chose en réalité.
Un pacte charnel avec Satan.
Absolument. Donc ce qui est pire, parce que ça s'illustre de sodomie en plus, donc c'est encore, je veux dire, encore pire. C'est encore plus contre nature. Mais en général, les sorciers qui étaient accusés, étaient plutôt le chef de groupe de sorcières. Si vous me suivez. Donc, en fait, eux étaient plutôt accusés de favoriser les sorcières et de faire des communautés, plutôt que d'avoir des pratiques seules, comme elles pouvaient le faire. Et donc, il y en a très peu. Hein, c'est vraiment quand on a vraiment des grosses communautés, où ils ont l'impression, je veux dire, d'avoir de grosses communautés. Vous avez 10 femmes qui sont sorcières, qui vivent ensemble, à l'orée des villages, etc. Et que, elles ont soit un mari ou un compagnon, dont on ne sait d'où, et qui dirigerait ce groupe. Donc c'est plutôt l'image du meneur de sorcière que du sorcier en tant que tel. Mais avec toute l'image de Saba et tout, hein, ils participent aussi. Ici, on ne représente que des femmes, mais en fait, il y avait des hommes également. Donc, voilà.
Je pense à Jeanne d'Arc et je me demande en tant que... Bon, elle a été brûlée, mais en tant que sorcière, tant qu'hérétique, bon, c'est bien qu'il y avait tout un contexte politique, mais bon, quels étaient les arguments pour l'amener au supplice?
Ben, l'argument premier a été l'argument d'abord qu'elle s'habillait en homme, ce qui était contraire totalement aux règles de la société. Une femme ne pouvait jamais s'habiller en homme parce que, étant inférieure à l'homme, elle ne pouvait pas revêtir les vêtements d'un être supérieur, déjà.
Donc, homme aurait pu s'habiller en femme sans problème?
Le jour du carnaval. Le jour du carnaval, mais pas en d'autres occasions. Hein. Il n'aurait pas encouru la même condamnation. Hein, on aurait plutôt pensé qu'il était sodomite à ce moment-là. Donc on serait parti vers ce genre de crime-là. Donc ça, c'est la première chose. Il y a effectivement le contexte politique qui a joué et le fait qu'il fallait absolument la condamner. Donc ils ont contourné le fait, donc, un, qu'elle s'habillait en homme. J'essaie de me souvenir, hein, parce que c'est des choses qui remontent quand même à loin pour moi. Ils ont utilisé aussi le fait que ses victoires en tant que femme étaient surnaturelles. C'était pas normal qu'une femme dirige une armée et qu'elle remporte des victoires comme à Orléans, etc. Donc elle était aidée par, forcément, c'était pas Dieu, ça pouvait pas être Dieu, donc c'était Satan. Et donc ils ont créé un lien, si vous voulez, comme ça. Elle prétendait voir la Vierge Marie, mais c'était pas, enfin, ses visions étaient, n'ont pas été reconnues comme telles tout à fait. On a vraiment construit autour d'elle, si vous voulez. Ils ont utilisé, puisqu'on est dans les années, je n'ai plus la date exacte, 1430 quelque chose, on est juste dans les périodes de constitution et du crime d'hérésie, du crime de sorcellerie. Donc ils ont été recherchés, si vous voulez, à l'intérieur de leur doctrine, tout ce qui a pu servir à faire condamner Jeanne d'Arc. Elle n'était pas hérétique, je vais dire, c'était extrêmement difficile de prouver, puisque de toute façon, elle n'a rien renié. Donc ils ne pouvaient pas, donc il ne restait plus que la sorcellerie. Donc ces voix, est-ce que c'était bien un dieu? Je pense que le questionnement qui lui a été fait, il lui demandait de prouver que c'était bien Dieu qui lui parlait, que c'était pas Satan. Comment est-ce qu'elle pouvait dire que c'était Dieu et pas Satan? Donc il y a tout ça autour aussi. Ce qui montre aussi, comme l'épreuve était forcément extrêmement légère dans tous ces procès, on peut manipuler les choses comme on veut. Le procès de Jeanne d'Arc en est un exemple.
S'il n'y a plus de questions ou d'interventions, je remercie encore Aline Gossens. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous invite à venir le 4 janvier écouter l'Ambrose Koulou-Baritsis qui nous parlera de l'humanisme.